Vous êtes sur RTL.
Diteront la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Vous vous souvenez peut-être de notre échange avec Benjamin Sportouche vendredi. Je lui disais, que va-t-il se passer? Il me dit, je n'en sais rien. Est-ce que le président va parler? Je n'en sais rien. Ça sera samedi ou dimanche? Je ne le sais pas, etc. Et combien il avait raison, Benjamin Sportouche, d'être prudent, puisque le soir, ça a été la surprise, Jean Castex a parlé et le confinement n'a pas eu lieu. Christophe,
bonjour.
Qui est kiné, rebonjour. Pourquoi dites-vous que c'est une bonne décision?
C'est une bonne décision parce que si on écoute tous les spécialistes, ils nous disent qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être là 3 mois sur notre territoire et on se plante tous dans nos terriers. Donc si on doit vivre avec ce virus, vivre, c'est reprendre sa liberté, l'encadrer, cette liberté, prendre des précautions. Il faut effectivement faire attention aux personnes fragiles, mais apprendre à vivre avec. On peut pas toujours faire ce qu'ils appellent le stop and go. Puis il faut penser à la jeune génération, Pascal, qui a beaucoup donné. Moi, je m'emporte quand j'entends des phrases sur les jeunes, mais c'est eux qui payent le plus. Donc il faut que ces jeunes repartent au travail, revivent, et en faisant attention aux anciens. Mais et j'écoutais ce week-end M. Mélenchon et d'autres personnes faire appel écouter la représentation locale, écouter les corps intermédiaires. Il y a des choses qui se font à Saint-Lampin, chez moi, qui ne se font peut-être pas à Lille, ou à Lille, qui ne se font pas à Paris. Trouver des solutions innovantes, mais vivre, revivre, tout en protégeant les plus fragiles. Mais pas s'isoler comme ça, comme s'il y avait... On se croirait dans un film avec Will Smith, je suis une légende, où les gens ils tombent morts quand ils respirent dehors. Ce n'est pas le cas.
Comment vous jugez les scientifiques, les médecins, ceux qu'on appelle les mandarins, hein, disons-le, Jean-François Delfrécy, Gilbert Deray, il y a également Gilles Pialoux, qu'on entend beaucoup. Tous ces mandarins qui ont avalé leur stéthoscope, sans doute, vendredi soir, au moment où Jean Castex parlait. Comment vous jugez leur attitude?
C'est-à-dire que ces gens-là, on se demande, ils ont raison. Hein, je compatis tout à fait avec l'hôpital quand il est débordé, c'est pas ça. Mais on ne peut pas être géré que par des médecins. Les médecins donnent leur avis et le politique prend une décision. Or là, on a l'impression qu'on est dirigé par des médecins et par un conseil de défense. Et ils ont raison sur les chiffres, mais si on écoute bien...
Ils n'ont pas raison d'ailleurs sur les modélisations, c'est ça qui pose souci. Emmanuel Macron pense que la modélisation proposée par exemple par Jean-François Delfrécy n'est pas la bonne. Et ce même Delfrécy avait annoncé 9000 personnes en réa qui ne sont jamais venues. Hein.
Puis vous savez, la modélisation, si on l'avait écoutée, la Suède, elle serait morte. Hein. Les mêmes modélisations où ils nous disaient ils n'ont pris aucune précaution, ils ne sont pas morts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas écouter que les scientifiques, il faut écouter les solutions qu'on propose sur le terrain. Pensez pas qu'à notre jeunesse, mais à tout le monde. On peut pas vivre enfermé. On est dans une psychose mondiale qui est... C'est pas que la France, hein, vous savez, Monsieur Pro. On n'écoute que les scientifiques, on met que des chiffres, donc faut être pragmatique, faut se reculer, faut se dire oui, il y a des morts, mais je suis d'accord, je ne sais plus qui intervenait sur votre antenne en disant la mort d'un enfant de 15 ans est beaucoup plus grave que la mort de quelqu'un de 84 ans. Donc il faut...
C'est vrai qu'il y a une hiérarchie, c'est très dur de le dire comme vous le dites, mais il y a une forme de bon sens dans ce que vous venez de dire, des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a encore 3-4 mois, parce qu'effectivement, l'idée c'est une mort égale une mort. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un autre langage qui dit ce que vous venez très précisément d'ailleurs de rapporter, c'est-à-dire qu'un enfant de 15 ans qui meurt, c'est pas la même chose qu'une vieille personne de 90 ans.
Oui,
et après, chacun choisit son camp, si j'ose dire. Est-ce que...
Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les personnes.
Oui, bien sûr.
Comprenez, personne n'arrive. Mais on ne peut pas s'arrêter vite, sinon c'est très égoïste. Ça veut dire que la génération des baby-boomers et des personnes âgées va dire à la jeune génération « Allez-y, le prix, c'est vous, on vous fout en l'air. » Non.
Alors, j'aurais aimé que quelqu'un soit pro-confinement, mais je l'ai dit vendredi, ça a tourné, la couleur des auditeurs a tourné. Là, je vois, il y a Jean-Baptiste, Anne et Jean-Marc qui sont devant moi. Je vais prendre Anne, peut-être, mais les quatre personnes que j'ai sous les yeux acceptent volontiers aujourd'hui de plus de liberté. C'est votre cas. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes infirmière, c'est important de le préciser. Et vous étiez sans doute contre le reconfinement.
Alors, oui, je suis contre le reconfinement parce qu'il faut voir quand même les dégâts que ça fait au niveau psychologique auprès de toute la population, aussi bien âgée que jeune. Et ça, aujourd'hui, il faut en tenir compte parce que on va aussi là vers une catastrophe sanitaire par rapport à l'ensemble des dégâts psychologiques que ça peut créer. Et je les vois tous les jours autour de moi, quel que soit l'âge des personnes, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, que des personnes très âgées. Et on ne peut plus vivre confiné. Je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec ce virus. Il faut qu'on apprenne à respecter respecter, et je répète bien, respecter les gestes barrières, la distanciation de sécurité, qu'on oublie tout de suite dès qu'on rentre dans un grand magasin, dans une grande surface. Moi, chaque jour, quand je vais quelque part, dans un magasin, je suis obligée de demander aux personnes de se reculer, de ne pas me coller. Et ça, c'est inacceptable. Donc, si les Français pouvaient un jour devenir raisonnable et se dire que ces distanciations, ces gestes barrières, le masque, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique et j'en passe, si on pouvait respecter ça, je pense qu'on irait beaucoup mieux et on n'aurait pas un gouvernement qui se retrouve à vivre dans la peur et à faire vivre son peuple dans la peur de ce reconfinement et de ce virus qui tue, parce que oui, c'est un virus qui tue les personnes, pas forcément les plus fragiles, pas forcément. Je pense que c'est une épée de Damoclès que tout le monde a au-dessus de sa tête aujourd'hui, et le virus va en toucher certains et pas d'autres. C'est tout.
Bah écoutez, les mots d'Emmanuel.
Ils sont touchés.
Les mots d'Emmanuel Macron vont dans votre sens, puisqu'il souhaite responsabiliser les uns et les autres et non pas les infantiliser. Il préfère espérer que se résigner. D'une certaine manière, il parie l'intelligence plus que le catastrophisme. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit « J'ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. » C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités. Merci Anne, merci Christophe. Vous étiez les deux premiers auditeurs. Je salue Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
On a failli être confinés, mais vous vous souvenez, hein, l'excellent échange avec Benjamin Sportouche.
Quelle prudence, en effet.
Mais il avait raison, Benjamin. Il avait raison, je le salue d'ailleurs. Et effectivement, c'est important en même temps de le dire à l'auditeur, ça. De dire on ne sait pas. C'est possible de dire on ne sait pas. Et il a bien eu raison.
Ça créditera ses prochaines interventions encore. A-t-il besoin de ça ? Je ne crois pas. Il est tellement excellent.
Bon, on va parler de Barbara Pravive, qui est tout à l'heure, puisque c'est elle qui a été choisie.
Voilà qui je suis, me voilà même si.
C'est pas mal, je trouve, non ? Oui, il y a
un mauvais esprit.
C'est vrai qu'il y a un côté padam padam. Faites voir les deux encore. Ah, c'est vrai, c'est un petit reproche peut-être qui lui sera fait. La pub à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner le pays à ce stade ? Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité de RTL ce matin. Il a justifié cette décision.
Le couvre-feu donne des résultats, donc ça vaut le coup de faire le pari de la responsabilité. Et je le redis parce que c'est ma conviction la plus profonde. Le confinement ne peut être que la toute dernière option lorsque toutes les autres ont été utilisées, parce que le confinement pèse sur le moral des Français.
Emmanuel Macron a écrit un message sur Twitter. J'ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. Alors, serons-nous à la hauteur ? Faut-il faire confiance aux Français ? Pour Loana, sur la page Facebook de l'émission, les gens ne sont pas respectueux, même égoïstes. Le président ne sera pas déçu. Ironise d'ailleurs Franck, j'en connais un paquet qui ne respecte pas le couvre-feu et s'organise des fêtes tous les week-ends. Après, bon, on ne peut pas nous enfermer pendant 20 ans, écrit Vincent. Il va falloir vivre avec ce virus. C'est du bon sens pour nous, pour nos commerçants, nos patrons de PME. Ajoute Pauline, enfin une bonne décision, applaudit Philippe, on n'en peut plus de ce quotidien et j'étais persuadé que nous allions être confinés, lance Xavier sur nos réseaux sociaux. Emmanuel Macron nous a tous eus et le Premier ministre n'avait pas l'air dans son assiette vendredi soir, observe Daniel, discussions ont dû être animées, mais il y a un chef, fait. C'est la règle.
Le président décide, le Premier ministre exécute et c'est vrai qu'avoir la mine contrite de Jean Castex vendredi soir, et il l'a sans doute fait à reculons, le Premier ministre. Le président préside, c'est le retour du politique, les médecins feront de la médecine et les politiques de la politique. Gaylord, on dit Gaylord ou Gaylord ?
Gaylord.
Gaylord, c'est un prénom celtique.
Exactement. Alors, il y en a qui disent que c'est breton, d'autres que c'est anglais, donc on ne sait pas trop.
Ce qui est breton est un peu celtique, convenons-en.
Oui, voilà.
Vous êtes routier dans la Nouvelle-Aquitaine ?
C'est ça.
Alors, je suis content que vous interveniez, parce que je disais qu'il y avait personne qui prônait un confinement XXL, comme en mars dernier, et vous, c'est le cas. Pourquoi ?
Moi, c'est le cas, tout simplement, parce que bon, aujourd'hui, je tourne beaucoup un peu partout en région parisienne et tout ça, et je vois énormément de choses aujourd'hui qui m'aberrent. Aussi bien que ce soit pour respecter les gestes barrières, comme disait Johanna tout à l'heure sur le Facebook, elle a dit que personne ne respecte, ils sont irrespectueux, et moi je le vois encore aujourd'hui, même sur les sociétés où on va livrer, beaucoup sont sans masque, beaucoup ne, il y a même plus de gel hydroalcoolique dans certaines sociétés. Enfin voilà, c'est à nous de nous débrouiller tout le temps. Alors moi, pour ma part, je mets tout le temps le masque, je mets toujours le gel hydroalcoolique, mais quand je vois que ce soit sur les routes, dans les dépôts où on va livrer ou autre, quand je vois que aucun geste est réellement respecté, je me dis, en fait, on n'en sortira jamais. On n'en sortira réellement jamais. Donc moi, je suis pour, au pire des cas, prendre encore sur nous, faire un confinement comme au mois de mars. Ça a quand même donné des résultats, on pourra dire ce qu'on veut, mais ça a quand même donné pas mal de résultats. Et là, si on continue à attendre, pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on va stagner au niveau des chiffres, ou alors ça va légèrement augmenter, légèrement baisser, mais on n'en sortira réellement jamais.
Alors Jean-Baptiste est là, il est médecin à Marseille. Bonjour Jean-Baptiste, vous venez d'entendre Geller. Et comme vous êtes sur une position inverse, je vous propose d'argumenter pour essayer de le convaincre, pourquoi pas.
Bonjour,
bonjour Jean-Baptiste.
Argumenter, je ne sais pas, mais je constate encore une fois qu'en fait l'opinion et la modélisation a pris le pas sur l'observation et le factuel. Et ça depuis le mois de mars dernier, en fait. Alors je veux bien initialement parce qu'on était dans l'ignorance, mais après quasiment un an de recul, et plusieurs études en plus qui démontrent que la prise de décision sociétale n'a pas d'effet direct sur l'évolution épidémique. En tout cas, c'est pas démontrable, ça. On peut pas faire de lien de cause à effet.
Bah, le premier confinement quand même avait diminué le nombre de personnes qui étaient contaminées.
Non, ça c'est une opinion.
Ah bon ?
Il n'y a rien scientifiquement qui l'a démontré.
Le 15 mars, quand on confine, il y a moins de gens gens dans les hôpitaux qu'il n'y aura à la fin du confinement.
Mais ça a suivi une courbe en cloche comme toutes les épidémies initialement. Quand il y a la grippe saisonnière tous les ans,
C'est-à-dire que si on n'avait pas confiné, à votre avis, ça aurait été pareil.
Et regardez la Suède, en tout cas, le taux de mortalité, il est un petit peu en dessous de, par million d'habitants, rapporté million d'habitants, il est un petit peu en dessous de celui de la France, de l'Italie.
Moi, on m'explique que faut comparer la Suède avec la Danemark et la Finlande, ses voisins, où le taux de mortalité est 10 fois supérieur en Suède qu'en Finlande et au Danemark.
Ah oui, enfin, on peut toujours, tout est relatif. Alors,
Pays qui sont comparables. Si tu compares la Suède et la France, a priori, c'est pas la même densité. Et si c'est tu ça. Compares Danemark, Finlande et Suède, c'est plus pertinent.
Bon, peut-être, mais ça reste quand même de la coupe. Je veux dire, on peut pas faire un lien de cause à effet aussi direct, en fait. Je pense que le président de la République commence à s'en rendre compte un petit peu. Et puis on n'a pas la culture asiatique du confinement strict. Et puis on voit bien que depuis un an, ça n'a pas changé grand-chose.
Bon, Geller, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Jean-Baptiste ?
Moi, je vois qu'au mois de mars, quand on était confinés, il y avait vachement plus de respect qu'aujourd'hui. Je le vois. Ou après, je dis pas qu'il y a forcément...
Non, mais ça, c'est autre chose, alors.
Moi, du côté de mes amis ou autres, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui font la fête. Il y en a beaucoup qui n'ont aucun respect. Et quand on s'est retrouvé confinés au mois de mars, tout le monde était chez soi, tout le monde avait peur et tout le monde laissait faire. Aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, il n'y a pas de confinement, donc réellement, c'est pas forcément la meilleure des choses, ou alors peut-être que le virus, on en entend parler. Moi, j'ai entendu des retours en disant, le virus, ok, mais au bout d'un moment, si on n'est pas confiné, c'est qu'il n'est pas si dangereux que ça.
Mais Geller, c'est pas faux de dire ça. Je suis toujours sur des œufs sur ce sujet-là, mais c'est pas un virus, c'est pas Ebola. Il est dangereux pour des personnes souvent très âgées et souvent très fragiles. Comorbidité, etc. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue. Et a priori, voilà un virus quand même qui a épargné les jeunes. La statistique de 0 à 44 ans, je crois qu'il y aurait 60 personnes qui sont décédées. C'était vrai la semaine dernière, donc ça doit à peu de choses être toujours vrai aujourd'hui. Donc c'est très peu de personnes qui sont décédées jeunes.
Oui, non, après je parle pas forcément au niveau des jeunes, mais je parle aussi par rapport à nos anciens. Enfin, moi je suis plutôt d'avis de les garder bien vivants, bien protégés, tout ça. Alors après, peut-être comme on a entendu juste avant, c'est vrai que dans l'optique, c'est les anciens ont bien vécu, les jeunes c'est l'avenir. Mais bon, au bout d'un moment, je pars du principe que moi j'ai pas envie que demain mes grands-parents ou des grands-parents des amis ou des grands-parents de personnes
Mais personne n'a envie de ça, Geller.
Disparaissent ou quoi
personne
que ce soit.
Personne n'a envie de ça.
pourquoi pas retourner sur un confinement complet, sortir au maximum, enfin baisser au maximum les chiffres.
Mais ça repartira, Gaylor, c'est ça. Moi, je vais vous dire, je signe tout de suite. Je signe tout de suite si ça s'arrête. Mais si tu le sentiment que les uns et les autres ont, c'est que si tu fais un mois ou un mois et demi de confinement, au fond, ça arrêtera momentanément peut-être l'épidémie, mais pas définitivement.
Ah non, là je suis complètement.
Bah donc on fait des stop and go tout le temps.
Non, mais du coup, ce qui peut être aussi pas mal, c'est que derrière, ça va pouvoir aider aussi pour les vaccinations, pour autres, ça évitera d'être recontaminé. Je connais des personnes qui sont dans les hôpitaux, les pauvres, ils en peuvent plus. Je connais quelqu'un qui était en vacances, qui a dû arrêter ses vacances parce que voilà, ils se sont retrouvés à avoir des épidémies par rapport à l'hôpital où je suis de Poitiers. Ils se sont retrouvés avec obligés d'arrêter ses vacances parce que les chiffres augmentent. Alors nous, après, on a été une région qui a été le moins touchée, entre guillemets.
Nouvelle-Aquitaine, votre région.
La Nouvelle-Aquitaine. Ouais. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, mon manque de peau, c'est que c'est plus du tout la même chanson. C'est qu'aujourd'hui, ça commence à bien augmenter. Moi, j'ai ma femme qui travaille en EHPAD. Sur son EHPAD, tout va bien. Il y a eu zéro cas et tout ça, tout va bien. Ils respectent bien. Sur l'EHPAD, qui est dans la même ville, à côté, ils ont, sur 80 patients, ils ont 60 contaminés. À un moment, je me dis, il faut quand même qu'on conserve les anciens. Il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Moi, je vois les gens, même sans parler des anciens, les employés qui n'ont pas eu leurs vacances parce qu'il y a le virus, et tout ça, derrière, on va, psychologiquement parlant, à un moment ou un autre, ça va craquer, il va y avoir un problème. Donc je me dis, peut-être qu'en descendant un peu, en refaisant un confinement complet comme au mois de mars, ça va aider aussi un peu tout ce qui est soignant et tout ça à redescendre un peu la pression, parce que eux, psychologiquement, c'est pareil, hein, c'est compliqué pour eux. Hein. Donc je me dis, peut-être que voilà, ça va descendre un peu la pression, ça va aussi permettre de peut-être faire plus de vaccinations parce que du coup il va y avoir moins de contaminés, donc plus de gens qui vont pouvoir faire les vaccinations et vice versa. Après, je sais pas, je suis pas le président, je ne sais pas tout ce qui se passe non plus en France ou dans les autres pays, mais je me dis que peut-être ça aiderait aussi psychologiquement, pas sur tous les plans en fait, ça n'aide pas forcément.
Et ben merci Gaylor, très argumenté et peut-être convaincant, en tout cas la démonstration de Gaylor. Merci également Jean-Baptiste, l'important c'est d'avoir évidemment toutes les tendances. Même si je le répète, et cette émission est formidable pour ça, il y a 10 jours, on l'a senti avec Greg Caradoni, la couleur des auditeurs avait changé. L'arrivée du variant anglais a donné une nouvelle, on a vu cette épidémie de manière différente, parce qu'on a le sentiment avec le variant anglais que ça ne s'arrêtait jamais finalement. Et dans la parole des auditeurs, on a vu un changement forcément éditorial s'opérer. Pas de chanson aujourd'hui, monsieur Grégory Caradoni.
Nous pourrons écouter L'oiseau et l'enfant un peu plus tard.
Si vous voulez, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h22, nous sommes toujours sur ce débat du non-confinement qui est arrivé vendredi. Nous sommes avec Jean-Marc qui est chef d'entreprise et qui habite Vannes. Bonjour.
Bonjour.
Et merci
Bonjour,
d'être Pascal. Avec nous. Merci Jean-Marc. Vous êtes satisfait? Le chef d'entreprise que vous êtes est satisfait?
J'ai envie de vous dire, on est entre deux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on vient de nous dire qu'on n'est pas reconfiné, mais on est déjà en train de nous expliquer que c'est pas sûr qu'on le soit pas. Donc, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas beaucoup changé au final.
Ça a changé quand même. Ça a changé. Il y a un président de la République qui a pris ses responsabilités.
Oui, mais qui a dit quoi? Qui a dit on va attendre, on a si vous regardez, c'est quand même un peu un discours à la fois, il nous demande de prendre, et j'entendais vos auditeurs et je suis d'accord avec vous, c'est prendre les responsabilités de chacun, etc., ce que je trouve d'ailleurs une décision politique assez forte, mais je trouve que parallèlement à ça, on est déjà en train de nous expliquer que si les chiffres ont tendance à un tout petit peu bouger, on va reconfiner.
Il fait passer des messages, Jean-Marc, à Jean-François Delfraissy, aux mandarins, qui n'ont pas tous les droits en France. Voilà les messages qu'il fait passer. Il fait passer le message que c'est lui qui décide. Je vous rappelle, lundi dernier, nous sortions d'une interview de Jean-François Delfraissy sur BFM, pour ne pas le nommer, où il expliquait qu'il fallait reconfiner, qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la situation était dramatique, c'était ce qu'il disait. Eh bien, le président, manifestement, il est agacé par ce ton et il ne suit pas le président du Conseil scientifique. Je serais d'ailleurs le président du Conseil scientifique, je pourrais dire ce matin, écoutez, je m'en vais, puisque je ne sers à rien.
Ouais, disons que le truc, c'est
je suis pas écouté, en tout cas, il pourrait dire ça.
trop écouter les médecins aussi, on peut pas vivre en écoutant que la médecine, quoi. C'est malheureusement pas possible.
Bah, en tout cas, c'est le choix d'Emmanuel Macron.
Ouais, bien sûr. Mais je respecte parfaitement. Moi, en tant que chef d'entreprise, on espère juste que les choses vont voilà, ça va continuer dans ce sens et que l'économie va repartir parce que on est vraiment à l'arrêt depuis trop longtemps. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, il y a plein d'entreprises. Je parle pas forcément de mon cas, mais je parle de plein d'autres entreprises où les gens sont déjà à la limite du dépôt de bilan déjà en 2019. Vous imaginez bien qu'en 2020, pour le moment, ils sont juste perfusés. Et que dans quelques mois, on va s'apercevoir que ces gens-là vont déposer à coup de, enfin, je veux dire les tribunaux de commerce et etc. Enfin, ils vont avoir un travail absolument monstrueux à gérer.
Vous êtes dans quel secteur, Jean-Marc ?
Moi, je travaille dans l'immobilier.
Bah merci beaucoup de ce témoignage. Et on va passer maintenant à la restauration, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui imaginaient ouvrir aujourd'hui. C'était de la désobéissance civile, disons-le. Stéphane Manigold, qui représente les restaurateurs, s'est opposé à cela. Nous sommes déjà avec Philippe, qui est restaurateur. Et vous avez peut-être écouté Bruno Le Maire ce matin, hein, qui disait que ceux qui désobéiraient ne recevraient plus d'aide la première fois, et la deuxième fois n'auraient plus jamais d'aide ensuite. Donc c'est un risque XXL pour un restaurateur. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur vous-même ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, vous n'allez pas ouvrir ?
Eh bien écoutez, non. Bien placé pour connaître les problèmes des restaurateurs, hein, on y est confronté tous les jours. Par contre, je trouve que c'est une très mauvaise idée, parce que ça mènera nulle part. Encourager les restaurateurs à la désobéissance civile, c'est mettre le doigt dans l'engrenage et forcer d'autres personnes, peut-être pas des restaurateurs, à se dire que peut-être ils peuvent contrevenir aux règles, aux lois. Donc, comme vous l'avez dit, Bruno Le Maire a bien précisé que les restaurateurs qui jouent à ce petit jeu seront sanctionnés. Donc, je pense que déjà que le restaurateur de Nice qui avait ouvert son restaurant, bah, il a été durement sanctionné, ainsi que tous les clients. Donc je ne vois pas l'avantage de ça. Je pense que personne n'y gagnera. On ne va pas faire la révolution, hein, de toute façon. Donc l'État sera toujours vainqueur.
Vous, quelle est votre situation aujourd'hui ?
Eh ben moi, je suis pas bien placé pour être restaurateur et que on est dans une situation exsangue, hein, et que on subit. Mais que peut-on faire d'autre ?
Vous êtes propriétaire ?
Oui, je suis gérant d'un restaurant.
Donc aujourd'hui, vous payez le loyer ? Parce que j'entends beaucoup de restaurateurs qui
tout
me disent...
Moi, je...
Donc vous,
tout
vous continuez
fait.
De payer déjà le loyer ? Vous
tout
payez des murs, hein, je veux dire.
Voilà.
Bon, donc, c'était un restaurant, c'était combien de chiffre d'affaires, si c'est pas indiscret de vous le demander, par an ?
Oh, ça faisait près de 2 millions de chiffre d'affaires par an.
Donc ce qui est une belle affaire.
Voilà.
Ça fait 200 000 euros par mois.
Voilà.
Ça fait par jour, on est sur 10 000 euros par jour, quasiment.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Vous étiez ouvert 5 jours sur 7 ?
6 jours sur 7.
6 jours sur 7. Donc par là, vous recevez des aides quand même ? Vous pouvez tenir ?
Eh bien, je voulais vous en parler parce que là où le bât blesse, c'est que les fonds de solidarité, c'est très très dur à les percevoir. Au départ, le temps d'attente était, je dirais, correct. Mais là, par exemple, concernant les salaires, nous avons réglé les salaires du mois de décembre. On n'a pas été remboursé.
Parce que c'est vous qui payez et vous êtes remboursé après.
Voilà, c'est ça. Donc, on avance et après, on touche. Donc, on a payé le mois précédent et on n'a rien touché. Et il va falloir payer ce mois-ci.
Et comment ça se fait, mais que c'est pas qu'il y a de ces freins là. C'est la première fois depuis la crise que vous êtes payé autant en retard.
Ouais, mais il y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres fonds de solidarité comme l'aide qui était de 20% du chiffre d'affaires. On n'a rien, touché. On a beaucoup d'argent dehors et qui n'arrive pas. Et là, je pense.
Vous n'avez jamais rien touché pour les 20%.
Pour le moment, non.
Alors que ça avait été mis en place en novembre. La décision de Le Maire, la déclaration de Bruno Le Maire, je me souviens, c'était au départ du confinement numéro 2.
Ouais, non, on n'a rien touché.
Ça, c'est quand même pas normal. Moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, ça. Mais comment vous faites alors ? Vous êtes à découvert en permanence ?
Eh ben, on fait comme on peut, on sollicite les banques qui sont patientes, on leur dit qu'on a tant d'argent dehors et que ça va venir. Elles comprennent la situation, elles nous font encore confiance. Donc je pense qu'on ne doit pas être les seuls dans la même situation. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ont de plus en plus besoin que les aides se multiplient et que l'État ne peut pas faire face.
Donc, Philippe, on va faire la pub, mais on va revenir juste deux secondes, parce que cette histoire de 20%, vous n'avez rien touché, qui était mise en place en novembre, je n'arrive pas à le comprendre. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est vrai qu'on a le sentiment parfois d'entendre des témoignages qui sont proches, hein, forcément, sur le confinement, sur la restauration. Donc on aura d'autres thèmes aujourd'hui à évoquer, Laurent.
Oui, vous pourrez réagir aux graves incidents qui ont eu lieu à la commanderie samedi. Le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, pris d'assaut par ses propres supporters, des voitures prises pour cible, le bus de l'équipe KSC. Bernard Tapie, ancien président de l'OM, a réagi hier soir chez nos confrères de France 2.
J'étais abasourdi et fondamentalement triste, parce que les supporters de l'OM, c'est l'âme de l'OM. Et je crois que c'est le moment où chaque partie, quand ils ont des différends, doivent se rapprocher.
Dans un communiqué, Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, parle de groupuscules de voyous. Il compare ces violences avec l'envahissement du Capitole il y a quelques semaines à Washington. Supporters de Marseille, comment réagissez-vous? Les sanctions doivent être lourdes, écrit Alain. Notre pays devient fou, lance Carole. Qu'en pensez-vous? 32-10. Comprenez-vous la colère des restaurateurs? Un appel avait été lancé par l'un d'entre eux, Stéphane Turillon, pour ouvrir les portes des restaurants ce midi et accueillir des clients. Vous partagez leur colère. Stéphane Manigold, le porte-parole du collectif Restons Ouverts, était l'invité de RTL Midi. Il a tenu à calmer les choses.
On a passé une nuit blanche à appeler tous les restaurateurs, les 280 qui avaient pu braver cette interdiction. Parce que nous sommes dans le dialogue. On n'appelle pas l'insurrection. On n'appelle pas la désobéissance civile.
Je comprends la réaction de certains restaurateurs, écrit Gabriel sur nos réseaux sociaux. Quand on voit des gens s'entasser dans les métros, les magasins, rouvrez les restaurants comme en Italie, demande Fred. Un appel irresponsable, s'énerve Monique. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte? Restaurateurs, nous vous attendons au standard pour témoigner. Dans quelle situation économique êtes-vous? 32-10.
Juste Philippe, pour terminer sur ces 20% que vous n'avez pas reçus, qui doivent être mis en place, qui ont été mis en place pour les mois de novembre, décembre et puis janvier, et vous me dites que vous n'avez rien reçu. Vous avez évalué a priori ce que l'État devrait vous donner sur le mois de novembre par exemple?
Alors, les 20% dont on parle, c'était pour les restaurants qui ont perdu au moins 70% de leur chiffre d'affaires. Mmh. À partir de décembre, ils avaient droit à 20% de ce chiffre. Donc c'était à partir du mois de décembre, hein, Pascal.
Ça avait été annoncé en novembre, mais c'était à partir du mois de décembre, effectivement.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. Donc oui, aujourd'hui, on a aux alentours de 70 000 euros dehors. Quoi.
Ouais. Ben merci beaucoup et bon courage vraiment Philippe. Toujours sur ce sujet de la restauration, Christophe est avec nous, c'est un ex-gendarme, donc j'imagine qu'il ne souhaite pas la désobéissance civile. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie. Effectivement, ben je rejoins d'abord mon prédécesseur, Philippe, là, qui est le restaurateur. Moi, je suis de l'autre côté du comptoir, puisque j'étais le client, et je serais tenté de dire le client assidu de ces petits restaurants que j'aime beaucoup. Et je suis pour la réouverture. Maintenant, je ne suis pas pour le passage en force. Mmh. Ah, pour la même raison que Philippe, qui nous disait que ça ne servait à rien, ça braquerait tout le monde. Je pense que c'est tout à fait ça. Et il faudrait pas faire l'erreur d'avoir un jour un cluster, alors qu'il n'y en a encore jamais eu dans les restaurants. Ils sont fermés, ça n'a rien changé. Il faudrait pas qu'il y ait justement un de ces restaurants qui devienne un cluster et que tout le monde s'acharne dessus en disant c'est la faute des restaurateurs et des restaurants.
Vous dites que vous êtes pour la réouverture. Pourquoi?
Parce que moi j'en ai besoin. Parce que c'est tout simplement. Moi, j'adore les restaurants. J'adore les petits restaurants. Je les ai fréquentés assidûment. Ça faisait partie de mes sorties. C'était assorti ça accompagnait toutes mes sorties. C'était un passage par un bistrot, par un restaurant, par un petit casse-croûte, par une petite pause dans un resto. Et ça me manque.
Ben merci Christophe, restez là parce que Françoise, elle, est pas d'accord avec vous puisque Françoise approuve les restaurateurs qui ouvrent en ce moment même parfois, même s'ils seront privés un mois Un mois de l'accès au fonds de solidarité, c'est ce que disait ce matin Monsieur le maire. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Écoutez, oui, je les approuve pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'ils sont tous dans une situation difficile et surtout ces bons petits restos qu'on aimait bien fréquenter. Je suis commerciale et donc j'ai un grand secteur, ce qui suppose que je ne suis jamais ou quasiment jamais chez moi pour déjeuner le midi. Et depuis 2 mois, j'en suis à manger des sandwichs ou des salades sur le volant de ma voiture. Parce que forcément, il fait pas beau, il fait froid, il pleut. Et donc, je passe 1 heure ou 1 heure et demie dans ma voiture à avoir froid, à manger des sandwichs, à manger des salades quand j'en trouve, ce qui est très rare, puisque maintenant, même la restauration rapide n'en fait plus. Donc ça devient vraiment très très...
Vous pourriez préparer votre salade le matin avant de partir, mais bon...
Le problème, c'est que quelquefois, je pars pendant 2, 3, 4 jours.
Oui.
Je fais comment ?
Non, mais je suis d'accord avec vous, je vais vous dire. Je ne veux pas dire que j'ai le même problème. Mais, n'étant pas très doué en cuisine, je trouve qu'on mange n'importe comment en ce moment, que c'est absolument un drame, qu'on est dans la restauration rapide, je sais pas si on va grossir ou prendre des kilos, mais en tout cas, c'est pas bon pour la santé ce qu'on mange lorsqu'on se fait pas de la cuisine soi-même. Là, vous avez parfaitement raison, Françoise.
Je suis entièrement d'accord avec vous. J'aime beaucoup faire la cuisine personnellement, mais comment voulez-vous faire ? Je n'ai pas de micro-ondes dans ma voiture, je n'ai pas de... Le midi, c'est systématique. Et le soir, quand vous arrivez à l'hôtel, c'est du room service qui n'est pas toujours diététique, il faut le dire.
C'est vrai.
Qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas toujours diététique.
C'est vrai, c'est
vrai. Les tarifs qui ont monté, parce qu'évidemment, ils en profitent. Donc, si vous voulez, à un moment, la situation devient difficile. Effectivement, on est mal nourri. On a beau faire des efforts, la restauration rapide ne fait plus de salade. Il faut le savoir.
Comme mais oui, ça.
Ils ne manipulent plus, ils n'en font plus. Donc vous avez droit soit à des hamburgers, soit à des sandwichs. Ça devient ingérable. Il y a quelques boulangeries qui font des salades, mais si vous arrivez trop tard, on vous dit il y en a plus. Je vous assure, vous êtes dans le froid, dans votre voiture et tout. C'est vraiment pour nous. On est des milliers de commerciaux en France à subir la même chose. Et donc moi je trouve que ces restaurateurs, quelque part ils ont raison.
Oui, même si ça sert à rien, c'est suicidaire. Mais on va continuer la discussion après la pub. Françoise, restez avec nous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et l'Eurovision, Laurent.
Barbara Pravi représentera la France à l'Eurovision au mois de mai avec cette chanson. Voilà, la chanson a été désignée par le public et un jury de professionnels. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous séduit ? La question éternelle, vous l'avez dit Pascal, depuis la victoire de Marie-Myriam en 1977. La France a-t-elle des chances de gagner l'Eurovision ? J'adhère complètement à ce titre, écrit Bruno sur la page Facebook. Tony n'est pas convaincu, on va faire du sou, Edith Piaf. On n'est pas prêt de gagner l'Eurovision, lance Bernard.
C'est pas gentil ça.
Ah, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux.
C'est pas gentil parce qu'elle a une jolie voix, elle a un très joli visage. Je trouve que la chanson est plutôt réussie.
Et
la couleur de la chanson, c'est
retient,
bien.
On retient le refrain.
Bah oui, c'est voilà. Pas mal. Voilà. Voilà.
Allez,
voilà.
C'est
quand il s'agit des chansons en dessous des années 70, de toute façon, Pascal est convaincu.
Mais là, c'est pas une chanson avant des années 70, c'est année de 2022.
Ah oui,
2021.
Sur un répertoire. Hein. Allez, cette année, non. Vous y croyez plus que d'habitude. 32-10. Et puis, une autre ambiance pour vous, Pascal. Quel papy, quelle mamie êtes-vous au quotidien ?
Vous parlez 20... à moi, là ?
Oui, non.
T'agresses.
24 petits-enfants pour François, 13 arrière, un travail à temps complet.
Pourquoi ce sujet ?
Parce que le pape François a annoncé hier une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Et oui, elle sera célébrée tous les ans par l'Église catholique le 4e dimanche de juillet.
A priori, il n'est pas grand-père, lui, le pape François. Ou alors,
Chose. Les grands-parents sont souvent oubliés, a souligné le pape. Alors parlons d'eux, parlez-nous de vous au 32-10.
Ah, ça, c'est extraordinaire. Effectivement, on en parle assez peu. Le pape François a annoncé hier une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Est-ce, y a-t-il un rapport avec le Covid ? Peut-être pense-t-il à ces personnes qui ont été malmenées depuis un an ? Faisons une petite parenthèse d'Eurovision avec Claudine. Je ne sais pas si elle est déjà là. Claudine.
Pas encore.
Pas encore.
La responsable du système est en train de caler, Claudine.
C'est Rachel. Ah, elle est là. Ça y est, c'est vert, si j'ose dire. Bonjour, Claudine.
Oui, bonjour Monsieur Pascal Pro, je vous écoute tous les jours avec plaisir.
Eh ben c'est très gentil à vous.
Mais tout à l'heure vous m'avez un petit peu énervé parce que vous avez dit que notre chanteuse qui a été choisie pour l'Eurovision, on lui reprocherait un jour de copier Edith Piaf. Et ça m'a mis en colère. C'est pour ça que j'ai pris le téléphone. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai écouté cette chanteuse dans l'émission d'Éric Jean-Jean samedi après-midi à 14h30. Je connaissais pas naturellement cette chanteuse, puisque bon, elle est nouvelle, sauf que j'ai appris par la suite qu'elle faisait les paroles de plusieurs chanteurs, qu'elle faisait des chansons, si vous voulez. Et donc, je l'ai écoutée dans l'émission d'Éric Jean-Jean et j'ai été émerveillée. Alors, sur une autre chanson, d'ailleurs, pas sur celle-là, et j'ai été émerveillée par son interprétation, par c'était magnifique. Et Éric Jean-Jean, vraiment, lui aussi, il avait l'air d'être très étonné et heureux de l'entendre. Et cette jeune fille a même expliqué, enfin ça c'est anecdotique, mais enfin, elle a même expliqué que le soir, elle se mettrait un bustier, parce que quand elle chante, elle bouge beaucoup les bras et elle voulait pas être gênée dans ses mouvements. Alors moi, je vous assure que je la connaissais pas, et j'avais hâte d'arriver le soir, rien que pour elle, pour l'écouter et puis pour la connaître, pour la voir, parce que naturellement, la radio, on ne voit pas les gens. Et donc, moi, je l'admire et je l'adore, cette jeune fille. Je l'adore et je voudrais qu'elle gagne.
Eh bien, voilà. Écoutez, moi, je partage à 100% ce que vous venez de dire. Et effectivement, j'imaginais qu'on pourrait lui reprocher, pourquoi pas. Mais vous avez raison, il ne faut pas entrer dans cette petite polémique. C'est vrai qu'il y a des intonations...
Oui, énervé, vous voyez.
Ouais, alors c'est pas tant des intonations d'elle, c'est les la
c'est
mélodie
les
de la chanson.
De sa chanson.
Voilà qui mais c'est peut-être une référence voulue aussi, c'est peut-être un clin d'œil, il faut peut-être le prendre comme ça. Réécoutons ces quelques notes de musique qui font penser
oui,
à
ça,
Padam.
Je suis d'accord avec vous pour les trois, mais enfin c'est pas pour ça qu'elle limite Edith Piaf. Enfin.
Vous avez raison. Et d'ailleurs elle ne limite pas.
Voilà qui je suis. Il arrive en courant derrière moi.
Donc voilà, mais moi je pense que c'est davantage un clin d'œil, c'est voulu en fait, très certainement oui. C'est voulu. Et je trouve que les paroles sont intéressantes. Merci Claudine.
Bien, je vous en prie, je vais continuer parce que j'aime bien vous écouter.
Ah bah vous êtes gentille Claudine.
Alors,
et puis...
sauf à la télévision. Hein.
Ah bon?
Parce que là, à la télévision, autant je vous aime, autant je ferme la télé.
Ah
parce
bon
que c'est un cafouillis, tout le monde parle en même temps, tout le monde crie en même temps, et ça, on ne comprend plus rien. Donc
c'est
là,
vrai.
Je ne suis pas d'accord avec vous pour la télé. Mais,
donc,
pour la
mais là, quand je suis tout seul, vous m'aimez bien.
Voilà.
Mais, donc finalement, il faudrait que je parle tout seul tout le temps, quoi. Ça serait bien.
Mais ça fait bien. Moi aussi, je vis toute seule, alors je parle tout le temps aussi. Hein. Je suis une vieille mémé de 80 ans, alors toute seule dans son appartement. Donc voilà, je me parle tout seul aussi. Moi.
Mais c'est vrai qu'on quand on vit seul, on se parle parfois tout seul. Mais alors, puisque vous êtes là, vous êtes sur deux thèmes aujourd'hui, parce que quel papy, quelle mamie êtes-vous au quotidien, Claudine?
Bah, même... écoutez, moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais je suis quelqu'un de très sentimental et donc si j'avais des petits-enfants autour de moi, j'essaye de faire du bien aux autres, si vous voulez, voyez.
Bah voilà. Écoutez, c'est
j'ai pas d'enfants personnellement, mais je gâte les petits cousins, les choses comme ça, voilà.
Bah,
je fais des petits cadeaux quand je pars en vacances, je fais toutes les boutiques pour leur trouver quelque chose.
Et voilà. Ben, merci beaucoup Claudine et bonne journée.
Et continuez.
Ben, c'est gentil.
Merci.
Merci, merci beaucoup Claudine.
Elle a raison Claudine Pascal, le grand studio RTL d'Éric Jean-Jean, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez retrouver sur rtl.fr le podcast.
Eh bien nous le ferons tout de suite après cette émission.
C'était passionnant.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Extraordinaire parce que chaque année, on dit que l'année prochaine, on va réécouter Marie-Myriam depuis 77. Et chaque année, je dis qu'il y a trois choses qu'on n'a pas gagnées depuis une éternité. Le Tour de France, le dernier, c'est Bernard Hinault. Roland Garros, le dernier, c'est Yannick Noah, c'était en 83. Bernard Hinault, ça doit être en 85, je crois. Et Marie-Myriam, c'est 77. Donc... Benoît, est-ce qu'on va gagner cette année avec Barbara Pravi? Bonjour Benoît, représentant des fans français de l'Eurovision.
Voilà, secrétaire des fans de d'Eurofan, le club français.
Mais depuis combien de temps vous êtes représentant des fans français?
Je suis à cette fonction depuis 2014, mais Et d'ailleurs, samedi, j'avais la chance d'être sur le plateau. De voir Barbara.
Elle est pas mal, moi, je trouve, cette chanson.
Oui, elle est très très bien. Mais elle est très très bien. À la première écoute, ça déroute un peu, mais c'est sûr qu'à l'écouter, ça passe.
Elle est très française, vous voyez, cette chanteuse, si j'ose dire.
C'est de la chanson traditionnelle française, et oublions pas que, puisqu'on la compare à Piaf, Piaf s'est fait connaître à l'international comme au national avec des chansons en français. Enfin, c'était quelque chose.
Alors j'ai vu que certains ironisaient, disant tiens, cette femme n'a pas de barbe, elle n'est pas transgenre, elle n'est pas... j'ai vu ces ironies sur les réseaux sociaux, donc elle n'a aucune chance puisqu'elle est trop normale.
Ces gens-là ont peut-être pas écouté l'Eurovision depuis des années, mais je crois que c'est, comme dirait quelqu'un, très haut placé dans le pays. Il y a peut-être 66 millions de procureurs sur l'Eurovision également.
Bon, en tout cas, vous connaissez les autres chansons qui seront en lice?
Oui, tout à fait. Il y a la Lituanie qui a renvoyé son groupe de l'an dernier qui était ultra favori. Bah, devinez.
Ah, t'as le droit de chanter deux fois?
Ah, bah, c'est une année exceptionnelle. Alors, oui, chanter plusieurs fois, ça, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Mais vu les conditions de 2020 qui ont été annulées, certains pays ont décidé de renvoyer le même chanteur que l'an dernier.
D'accord.
La Lituanie, qui présente un tube disco qui s'appelle Discothèque. Et devinez, depuis samedi que Barbara Pravi a été sélectionnée, eh bien, la France est en tête chez les bookmakers.
Ah, bah écoutez, ça, c'est une bonne nouvelle.
Pour qu'il manque une barbe et compagnie.
Mais il y a Fabien également qui est membre du fan club de l'Eurovision, donc vous le connaissez peut-être. Vous le connaissez, Fabien?
Je connais, je pense.
Fabien, qui habite Créteil.
Oui, bonjour, bonjour Benoît, oui, on se connaît effectivement.
Vous êtes routier, Fabien. Mais alors, moi ce qui m'intéresse, c'est comment on devient membre du fan club de l'Eurovision et pourquoi on devient membre de ce fan club?
Pascal, www.eurofan.fr, voilà, et on est 45 clubs comme ça dans le monde. On est à peu près, je crois, 30 000 fans de l'Eurovision dans le monde. Et voilà, et ça devient, moi je suis tombé dedans le jour où Marie-Myriam a gagné.
Bon, mais vous étiez né en 77?
Ah oui.
Mais vous aviez quel âge?
Mais je me souviens encore j'avais 8 ans, mais je me souviens encore de ce soir-là. Et samedi, quand j'ai croisé Marie-Myriam qui était juste à mes côtés, j'ai allé de bonheur comme
ça. Non. Alors si je vous pose par exemple, si je vous mets une petite musique de Marie-Myriam, là ça, je vous mets au Nirvana.
Au Nirvana,
je vous envoie
comme
au Nirvana.
Ça, je viens de la réentendre, c'est bon. Mais je vous garantis que samedi, à la première répétition, quand elle est montée sur scène pour faire la collégiale de départ, des émotions quoi.
Mais elle, son intérêt, c'est ça qui est paradoxal, peut-être qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'elle soit détrônée, parce qu'elle reste toujours dans...
Elle en a quand même envie, elle n'arrête pas de le dire. Oui,
ah bon,
j'ai envie qu'on passe la main cette année. Oui,
ah oui, mais on ne la verra plus après.
Mais si, vous inquiétez pas.
Bon, Anne-France est là aussi, c'est joli Anne-France. Bonjour Anne-France.
Bonjour Pascal.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de notre chanson Barbara Pravi?
Je n'en pense que du bien. Je suis persuadée que l'émotion est internationale et qu'elle peut remporter la compétition.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est vrai que là, elle fait l'unanimité, cette chanson. Hein. Souvent, on a moqué les chansons de l'Eurovision ces dernières années. On trouvait que c'était pas terrible, que c'était bon. Et là, il semble quand même qu'il y ait un consensus. Déjà, elle parle en français.
Oui, elle parle, elle chante en français.
C'est la base, vous me direz.
Elle est en français. Mais non, moi je la connais, je la suis déjà depuis quelques années. Donc je suis pas si étonnée que ça de la voir arriver à ce niveau-là. Je lui ai toujours dit qu'elle était petite, mais qu'elle était une grande. Donc je suis très très contente pour elle, très contente pour l'Eurovision française. Moi je suis persuadée que ça peut le faire.
Elle a du charme. En tout cas, l'année dernière, par exemple, on était dans les choux, Benoît.
Avec Tom Leb.
Oui.
Avec Tom Leb, la chanson avait été accueillie vertement par les Eurofans. C'est France 2 qui avait choisi en disant cette année, on va choisir, on va décider. Le jour J, je crois que ça a été choisi, révélé le dimanche, sur la Tour Eiffel, si je me souviens bien. Le lundi midi, j'étais sur votre antenne pour essayer de sauver les dégâts.
Bon, et qui, depuis 77, est-ce qu'on a une chanson qui a failli gagner?
On a Natacha Saint-Pierre qui est quand même deuxième en 2001 avec Je n'ai que mon âme.
Ah, ça c'était bien ça.
Là samedi. Amir qui a fini sixième en 2016, qui a vraiment reboosté l'Eurovision en France. Mmh. Oui, il faut bien le penser. Et puis des chansons qui n'ont peut-être pas brillé autant que ça, mais je peux vous garantir que Merci, Madame, Monsieur, c'est un tube Eurovision. Même si on a fini, Fabien saura me dire exactement la place, mais 13e, je crois, de souvenir. Mais la chanson Merci, les gens la chantent.
Allô?
Allô, bon. Oui.
Oui, non, Benoît, je...
Oui, je disais que Merci, cette chanson de Madame Monsieur est restée... un tube Eurovision au sens des fans, quoi. On se la chante tous.
Première édition du concours de l'Eurovision, c'était en 1956 et la France l'a remporté à 5 reprises, 58, 60, 62, 69 et 77. Vous savez tout ça par cœur évidemment. En 69, qui est-ce qui gagne, Benoît, en 69?
Qui est-ce qui gagne? 4 pays, la seule fois où il y a eu des ex-échos, non, il y a eu la France et d'ailleurs c'était Frida Bocara. Et juste pour information, j'avais 9 jours. Voilà,
bon, du 62, c'est évidemment France-Galles.
65, France-Galles, c'était le Luxembourg, c'est RTL qui l'avait fait.
Exactement, et alors on a le sentiment que France-Galles a gagné pour nous, mais elle représentait le Luxembourg ce jour-là. En 62 et 60, qui chantait ?
62, c'était Isabelle Aubray. Mmh. 60, c'était 58, c'était André Claveau. 60, c'était Jolie Croisée, Jacqueline Boyer.
Jacqueline Boyer, 58. Eh bien, écoutez, merci Benoît, merci Anne France et Fabien veut peut-être rajouter un mot. Fabien, vous serez. On peut dire où ça va se passer cette année.
On a failli avoir une victoire. Alors là, le premier ex-écho, c'est en 91 avec Amina. Oui. Et en fait, alors on a été malheureusement déclassé à cause, pas non du nombre de 12, mais du nombre de 10. Mmh. Et par contre, depuis, le règlement a changé, et c'est en fait le plus grand nombre de votants. Et là, c'est nous qui aurions gagné, en fait.
Ouais. Ça, je peux pas, effectivement. André Claveau, il avait... André Claveau, c'était quelle chanson, André Claveau ?
Dans mon amour.
Bon, bah écoutez, j'ai que des fans avec moi. Merci beaucoup. On a fait un petit tour sur l'Eurovision, c'était sympathique, ça nous aère un petit peu. On va parler de l'Olympique de Marseille et des supporters en général. Si vous êtes ultra... Ah, ça c'était bien, Natacha Saint-Pierre. C'est une belle chanson ça, et celle-là elle a survécu à l'Eurovision. Si vous êtes ultra, si vous habitez Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille, si vous êtes un ultra et qu'effectivement vous mettez en cause vos dirigeants, hein, on a vu des supporters arriver dans le camp d'entraînement et de Saint-Étienne et de Marseille quand même en 48 heures, appelez-nous pour nous dire vos motivations, pourquoi vous êtes en guerre contre votre club et pourquoi vous en prenez à vos dirigeants. 58, 13h, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et 14h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Mais avant d'écouter Olivier Bois pour le Flash, Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous comprenez la frustration des supporters de l'OM et ce qu'ils ont fait à la commanderie ?
Alors, je peux comprendre la frustration. Par contre, je ne peux pas comprendre cette violence.
Voilà. Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi, Olivier Bois.
La procureure de Mulhouse confirme le lien entre le tueur de Valence et la tentative d'assassinat d'un DRH dans le Haut-Rhin mardi. Ce DRH a reconnu d'abord le tireur comme un homme qu'il avait licencié par le passé. Il avait réussi à lui arracher ce jour-là son masque et ses lunettes et l'ADN du tueur de Valence a été retrouvé dessus. Les supporters de l'Olympique de Marseille, vous en parliez précisément, vont être jugés en comparution immédiate cet après-midi pour les dégradations de samedi. Certains d'entre eux, on le rappelle, ont réussi à entrer dans le centre d'entraînement. Le club parle de centaines de milliers milliers d'euros de dégâts. Retour à la normale, normalement, pour la campagne de vaccination Pfizer, qui est assez bloquée en France depuis 15 jours. Pfizer-BioNTech a réglé les problèmes de fabrication. Les livraisons vont reprendre normalement. Et les deux laboratoires promettent même une augmentation de ce livraison de 75 millions de doses à partir du deuxième trimestre. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a été testé positif à la Covid, selon son entourage. Il s'isole et se porte bien. C'était attendu. Canal Plus boycotte le nouvel appel d'offres de la Ligue de football professionnel. On verra si les candidats se dégagent. Sinon, des négociations pourraient reprendre directement avec le diffuseur historique du football français. Et puis la météo, c'est d'abord cette vigilance orange, crue et pluie dans quatre départements du Nord et sur un gros quart sud-ouest. Le temps va rester gris et pluvieux cet après-midi, sauf sur la Méditerranée. On termine avec le quintet à Vincennes, l'arrivée provisoire à l'instant, le 13, le 5, le 6, le 9 et le 8.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il y a toujours eu des supporters mécontents à Marseille, mais on a franchi un nouveau cap là, parce que c'était extrêmement violent, c'était contre la commanderie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était dans le temps une violence sportive, dirigée souvent contre les joueurs, parfois c'est vrai contre les dirigeants. Et maintenant, c'est une violence quasiment sociale, dirigée quasiment uniquement contre les dirigeants, comme s'il y avait un rapport de classe là-dedans. C'est en fait des gens du peuple, les supporters, les ultras, qui veulent que ces dirigeants, qu'ils considèrent non marseillais d'ailleurs, hein, pas représentatifs de l'OM, bah, quittent la place. Stéphane est là, bonjour.
Oui, rebonjour Pascal.
Rebonjour. Votre avis.
Donc moi je ne suis pas ultra, je suis simplement supporter, alors pas de Marseille, puisque moi je suis de Lille, hein, donc supporter du LOSC. Je n'arrive pas à comprendre cette autant de violence à rentrer dans la commanderie, à tout casser, à s'en prendre, j'ai même un joueur qui a été blessé, j'arrive pas à comprendre tout ça. Je peux comprendre la frustration, je peux comprendre que certains joueurs ne se bougent pas sur le terrain, que les supporters ne sont pas contents. Maintenant, de là à en prendre physiquement et à tout casser, là c'est trop quoi. Voilà.
Oui, mais il y a autre chose, je trouve. Il y a une sorte de gilet jaunisation des ultras désormais. Une forme de colère sociale. J'y vois presque un mouvement social qui est différent de ce qui existait il y a 15 ans ou 20 ans.
Alors, Marseille reste Marseille. Voilà, c'est un peuple de football. C'est un peuple qui aime son club, qui sort ses tripes à chaque fois, à chaque match. Ça, c'est indéniable. Maintenant, je peux comprendre aussi qu'ils en veulent aux dirigeants, parce que finalement, les problèmes qui ne sont pas réglés sur le terrain entre joueurs.
Mais c'est pas les dirigeants qui jouent, c'est ça, moi.
Les
joueurs. Quels sont les joueurs à l'Olympique de Marseille, par exemple? Il y a des bons joueurs sur le terrain.
Il y a des bons joueurs, mais est-ce que Payet est à son niveau? Est-ce que.
Mais c'est de la faute du président de Marseille?
Non, c'est pas de la faute du président de Marseille.
C'est ça qui m'étonne, moi, dans cette séquence.
Non, mais quand on entend qu'il y a des histoires entre Thauvin, Payet, tout ça, c'est les dirigeants à un moment qui doivent prendre leurs décisions. Si les dirigeants prennent pas les décisions qu'il faut, ça ne peut pas aller. Et peut-être que, effectivement, les supporters s'en prennent aux dirigeants parce que, justement, ils n'arrivent pas à résoudre ces problèmes-là, alors que c'est leur job. Ça, je peux comprendre. Mais autant de violence, non. Et cette violence doit être réprimée.
Oui, et puis elle est contre-productive pour le club, bien souvent. Jean-Paul est là également. Mais on retrouve ça, je l'ai dit, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Nantes également.
Oui, mais parce que là, il y a plus de 100 000 euros de dégâts. Qui va payer? Le club. Donc c'est le club qui ne va pas pouvoir investir sur certaines choses dans
même
le club.
Même si 100 000 euros, c'est des sommes qui ne sont pas qui vont pas mettre le club en danger, mais c'est de l'argent, bien évidemment.
Aller dire dans un club amateur 100 000 euros, c'est pas grand chose. C'est beaucoup dans un club.
Je suis d'accord
amateur.
Avec vous. Voilà. Dans un club amateur, mais à l'OM, le budget de l'OM cette année, je ne sais pas combien il est, mais il est entre 120 130 millions d'euros peut-être. Donc c'est une somme qui conséquente, mais qui ne mettra pas le club en péril. Jean-Paul est là et je le salue.
Oui, bonjour Pascal.
Qui est coach de foot dans les Hauts-de-France. Bonjour.
Exactement, je suis coach dans un petit club à côté, un grand club à côté de Arras, à Saint-Laurent-Blangy, à l'étoile sportive de Saint-Laurent-Blangy, plus exactement. Oui, je suis coach et moi j'ai mal à l'OM là parce que j'adore l'OM, je suis supporter de l'OM, mais je condamne cette violence parce qu'on règle rien par la violence. Mais c'était attendu, ça. Un jour ou l'autre, ça allait exploser. Quand Madame Dreyfus a vendu le club à Frank McCourt, c'était attendu. Ce gars-là, il a ruiné un club de football américain, si je me trompe pas. Il n'en a rien à foutre de l'OM. Et aujourd'hui, alors, encore une fois, je cautionne pas du tout la violence qu'il y a eu à la commanderie, mais on peut comprendre. Alors, il y a aussi la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Les supporters ne peuvent plus s'exprimer dans un stade. Ils peuvent plus montrer leur mécontentement par des banderoles, par ce que l'on veut. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. C'est pas tolérable, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, c'était inévitable.
Mais l'OM était en Ligue des Champions cette année, brillé. Donc l'OM a fait un bon parcours là en passant en championnat.
Oui, mais quand on joue la Ligue des Champions et quand on fait des promesses comme le patron de l'OM a fait aux supporters, la fameuse Champions Project, on fait tout pour quand on arrive en Ligue des Champions, pouvoir tenir au moins passer le tour des poules. Ça s'est pas passé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas assez. Le banc est faible à l'OM. Il faut quand même le dire. Alors on a plus les joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont en forme, etc. Payet, l'année dernière, c'était le vieux. Aujourd'hui, on le fout à la poubelle. Thauvin, il revient d'un an. Un an sans avoir joué. Il faut être quand même un petit peu, je dirais, vis-à-vis des joueurs, avoir un petit peu de retenue. Maintenant, pour moi, les dirigeants aujourd'hui sont incompétents au sein de l'OM. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis qu'ils ont racheté. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Pascal, qui est grand amateur de football.
Non, mais je voudrais pas non plus qu'on fasse, on refait le match. Ce qui m'intéresse dans cette discussion, c'est de l'ouvrir un peu sur la colère sociale et ce rapport parfois des ultras avec leur club. Ça peut parler à tout le monde. Et effectivement, l'aspect technique, et on le laisse à Christian Olivier et à ses amis, forcément, et je les écoutais d'ailleurs samedi soir, c'était passionnant d'écouter ce qui s'est passé à l'OM. Mais que ce soit à Marseille, je l'ai dit, à Bordeaux, à Saint-Etienne, il y a des supporters qui estiment être trahis, je dis supporters d'ailleurs, c'est des ultras, qui estiment être trahis par les dirigeants et qui revendiquent une appartenance. Même il voudrait diriger, pourquoi pas avoir une part de qu'il soit une part de responsabilité dans le choix des clubs. C'est ce qui se passe parfois d'ailleurs en Espagne. Donc c'est aussi un débat qui peut nous intéresser. On sera avec Patrice dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le jump de Van Aden qui symbolise l'Olympique de Marseille. Nous sommes avec Patrice. Bonjour Patrice.
Bonjour Pascal.
Et on rappelle effectivement que ce qui s'est passé, d'ailleurs ils vont passer au tribunal, les personnes qui ont attaqué la commanderie.
Oui, et ça c'est par contre, c'est dommage ce qui est arrivé ce week-end à Marseille, parce que c'est un grand club, il a laissé des traces, et quand on voit actuellement la situation du club, il y a des questions à se poser. Les questions à se poser, c'est on a des joueurs de qualité. On a un entraîneur, je pense, qui n'est pas si mordant que ça, en fin de compte. Je pense qu'il a pas assez ce tact pour dire taper du poing sur la table et maintenant c'est moi qui gère le groupe. Ça sera comme ça et pas autrement. Alors que je trouve qu'il y a un laisser, peu de laisser aller, quand je vois qu'on se chamaille entre joueurs, là, c'est pas possible.
Mais ça a toujours existé dans les vestiaires. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que du football, quand même. Je m'interroge sur le profil psychologique de ces supporters qui sont descendus dans la rue, qui insultent, qui attaquent, au risque d'ailleurs pour eux aussi d'avoir des répercussions, parce que ces personnes vont être peut-être condamnées, mais au risque également de blesser, en l'occurrence des supporters, et de blesser aussi des joueurs. Mais comment est-ce possible pour du football ? On n'est même plus dans un stade, là. Tu peux même pas les excuser par la passion du match. C'est-à-dire que c'est de la délinquance. On n'est plus du tout dans supporter une équipe.
Le problème que je pense, c'est que on est déjà dans une situation critique du sanitaire, et je pense que socialement,
on perd certains repères. Je veux dire que on n'a plus cette façon, cette envie d'aller au stade. On n'a plus, avant, on avait cette envie d'aller au stade, on était heureux d'aller au stade. Maintenant, on l'a plus. Tout est saturé, tout est bloqué. Et je pense que si derrière on supporte une équipe et qu'il n'y a pas les résultats, certes, ce qui a été fait, c'est pas, ça aurait pas dû être fait. Mais d'un côté, c'est l'âme, quoi. C'est le football.
Ah non, ça c'est pas le football. Patrice, ça c'est pas le football. Je suis désolé, c'est pas le football.
Non, non. Ce que je veux dire, attention. Je dis que c'est des supporters qui ont.
C'est des ultras d'ailleurs. Le mot supporter, il est vraiment pas adapté. Hein. Ce sont des.
Il est pas adapté. Oui, effectivement.
Sont des.
Là, ils ont été trop loin.
Mais oui, ils ont été trop loin, ça pour le moins, je veux dire. Oui, d'ailleurs, ils seront condamnés, hein, ils seront condamnés fortement, sans doute, d'ailleurs. Bon, ouais, Thierry est là également, qui habite la Charente et qui veut réagir. Thierry, qui écoute notre conversation. Bonjour, ouais, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, j'en pense déjà que c'est bien, vous avez rectifié par vous-même votre phrase, parce que j'allais la rectifier en les nommant de supporters, parce que pour moi, c'est pas des supporters, ces gens-là. C'est tout simplement des voyous, des délinquants. Maintenant, c'est n'importe quoi, se faire entendre en voulant, en cassant, en étant violent. Quand on supporte une équipe, quel que soit le sport dans lequel on supporte une équipe, on la supporte dans les grands moments et dans les mauvais. Ou sinon, on n'est pas supporter, on reste chez soi et on se tait. Une équipe, elle a besoin d'un soutien, elle n'a pas besoin de prendre des cailloux dans la figure pour dans des moments difficiles. Et ce qu'ils ont fait ce week-end, c'est à la limite, on ne devrait même pas en parler, parce que c'est de leur faire de la publicité à ces gens-là. C'est des voyous, ils doivent être traités comme des voyous, et puis voilà. Et même pas lier le foot à cet acte.
Ça va être très intéressant de voir les sanctions qui seront prises contre ces ultras.
Eh ben déjà, tu payes, tu casses. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Il y en a pour 100 000, ils sont combien? 30, je crois, être...
Je crois que c'est moins que ça. Je crois que c'est une petite quinzaine de personnes qui vont passer en comparution immédiate.
Eh ben, ça leur fera 6 000 euros chacun.
Vous êtes supporter d'un club de foot?
Pas du tout. Je suis plutôt ballon ovale, moi.
Vous êtes dans une région, vous êtes en Charente?
Ouais, exactement. Ouais.
Bon, donc il n'y a pas de grosse équipe de football. Il y avait Angoulême, jadis.
Si, Pascal. Il y a l'équipe féminine de Soyaux.
Bien sûr. Ah ben, Soyaux, évidemment.
Ah ben oui, c'est une équipe de foot.
Qui est en Ligue 1. Vous avez parfaitement raison. J'ai failli être rattrapé par la patrouille, là. Attention. Non, mais il n'y a pas de. Jadis, Angoulême avait une équipe de Ligue 1. Il y a 50 ans.
Je pense qu'il y a 50 ans en arrière, toutes les villes de France ont eu des grandes équipes, que ce soit en rugby ou en foot.
Oui, en tout cas, il y avait une équipe à Angoulême. Bah, merci Thierry. Ouais, Eric est là, merci peut-être un dernier témoignage sur l'OM. Bonjour Eric.
Bonjour, oui, je suis là.
D'accord ou pas d'accord avec ce qui a été fait?
Alors, absolument pas d'accord. Je pense que toutes les personnes qui cassent aujourd'hui pour des prétextes, surtout sportifs, c'est scandaleux. Et j'espère qu'ils vont être condamnés lourdement et qu'ils paieront, bien sûr, la casse qu'ils ont faite. Mmh. Et après, j'ai vu un article tout à l'heure qui critiquait le président de club qui a investi des millions d'euros dans un club, souvent à perte quand les présidents investissent ou les propriétaires investissent. Le critiquer parce qu'un club marche mal ou n'est pas premier chaque année, comme je dis toujours, il en faut un, il y a 26 ou 27 clubs, il faut toujours un premier, un deuxième, un troisième. Donc si à chaque fois on n'est pas premier, on casse tout, c'est pas normal. Donc je remercie aussi les investisseurs dans les clubs, parce qu'il faut oser aujourd'hui investir de l'argent à perte. Et alors, et les joueurs qui sont super payés, qui se chamaillent entre eux comme à la maternelle, ils ont dit qu'ils étaient des pros, et qui devraient surtout montrer l'exemple auprès de la population et des jeunes, plutôt que s'amailler et puis faire ce genre de choses que nous sommes en train de faire. Ça fait une mauvaise réputation. Et quand j'étais jeune, le sport, c'était quelque chose de familial, d'amitié et surtout pas de bagarre. Voilà, donc ça a vraiment changé.
Ben merci beaucoup. Là encore, Eric, a priori, tous les auditeurs condamnent ce qui s'est passé à Marseille. Et vous pourrez donner un dernier avis, peut-être. Et puis le débrief, comme tous les jours, désormais entre 14h20 et 14h30. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christo est un ultra de l'OM, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir un ultra. Bonjour Christo.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Donc vous faites partie des gens qui ont manifesté peut-être ou exprimé leur colère?
Non, pas du tout. En fait, en résumé, j'ai fait des déplacements pendant 4 ans, je faisais partie d'un groupe de supporters et j'ai la mentalité ultra. Donc par rapport à ce qui s'est passé, en fait, si vous voulez, j'entends beaucoup de témoignages de certaines personnes. Je pense qu'il faut comprendre un petit peu ce que l'OM représente pour les gens. Alors je cautionne pas du tout la violence qui s'est passée. Par contre, je cautionne totalement, en fait, le fait que les gens manifestent, le fait que les gens rentrent dans la commanderie. Donc forcément, pas forcément en faisant des effractions, mais justement pour pouvoir dialoguer avec ce président qui visiblement, en fait, enfin c'est pas visiblement, c'est un constat, n'est pas un prix Nobel de la communication, c'est-à-dire que ça fait des années en fait qui parle de façon hautaine en fait à ses supporters. Il se croit marseillais, mais il comprend rien de ce qui se passe en fait à Marseille, au club, à la ville. Il est complètement déconnecté d'une réalité. Et le problème, c'est que on sent qu'on perd notre club, en fait. On sent que le patron, en fait, de ce club, en fait, on nous prend quelqu'un de notre famille, en fait. C'est cette sensation qu'on a. Donc, en fait, si vous voulez, l'histoire des résultats, en fait, on s'en fout des résultats. C'est vraiment pas plus important. L'histoire qu'on joue comme des pieds, ça fait des années qu'on joue comme des tanches. On fait avec. Mais ça, je veux dire.
Mais c'est quoi le problème, alors?
Ben, le problème, en fait, c'est juste la gestion et la façon de parler. Et la
C'est-à-dire qu'il vous parle mal, c'est uniquement pour ça que vous cassez la commanderie.
Ah mais justement, je vous ai dit que je ne cautionne pas.
Non mais, alors là, vous me sidérez. C'est-à-dire que vous dites, le problème, c'est pas qu'on joue mal. Le problème, c'est pas qu'on ait des mauvais résultats. Le problème, c'est qu'il nous parle mal.
Eh ben, expliquez-moi aux salariés marseillais, donc, qui étaient justement au service administratif, qui se sont fait virer et qui ont mis à la place, en fait, des salariés, en fait, parisiens sous prétexte qu'ils sont
plus. Ouais, le problème, c'est qu'il n'est pas, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas marseillais, c'est ce que vous me dites, quoi.
Mais
vous avez le droit de l'assumer, mais si, effectivement, pourquoi pas? Mais donc, le problème à Marseille, c'est ce que vous me dites, c'est qu'il n'a pas le droit de virer dans une entreprise privée qui y veut. C'est ce que vous me dites. Il n'a pas le droit de remplacer un Marseillais par un Parisien. C'est ce que vous me dites aussi. Donc en gros, c'est quand on est à Marseille, il faut uniquement des salariés marseillais qui soient à l'OM.
Vous êtes d'accord que la forme n'est pas bonne. On parlait justement du lien social entre les ultras et justement le club. C'est quand même un sacré lien quand même. Je veux dire, le niveau social, le professionnalisme, la relation avec ses salariés, c'est du social. Je suis désolé. Il fait pas de social. Justement.
Il a le droit. Si il s'est séparé comme dans toutes les entreprises de certains salariés, j'imagine qu'il y avait des bonnes raisons. Il ne s'est pas séparé de salariés parce qu'ils étaient marseillais.
Non mais ça c'est juste un détail. Là moi je vous donne juste un détail de la fronde qui a pu justement craquer justement ce week-end. Ça c'est juste un détail. Je veux dire, les mauvais résultats, c'est un détail.
Quand vous étiez deuxième et en Ligue des Champions, il n'y avait pas de manifestation.
Deuxième en Ligue des Champions, quand?
Non, quand vous étiez deuxième l'année passée, vous avez terminé deuxième du championnat et vous avez été en Ligue des Champions.
Oui, mais la relation était déjà difficile avec Héro. Je veux dire, il y a eu quand même 200 millions qui ont été craqués dans les transferts avec Garcia. Je veux dire, c'était pas un génie. Je veux dire, il a fait venir Sprotman, c'était un boulet. Là où on a de la chance, on a Langoria qui fait le ménage et justement qui arrive à nous faire dégager certains boulets. Je veux dire,
Mais c'est qui les boulets, par exemple, selon vous?
Les boulets en termes de dirigeants ou en termes de joueurs?
En termes de joueurs.
En termes de joueurs, je pense qu'il y a des gens, par exemple, je veux dire, on parle de salariés, Payet et Thauvin, je veux dire, la crise de caca nerveux qu'ils nous font, honnêtement, on s'en tape, quoi. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient
positifs
sur le terrain.
Je suis d'accord avec vous. Et vous trouvez que le président, en l'occurrence, M. Hérault, a une responsabilité là-dedans?
Eh bien, je ne sais pas si vous êtes patron. Moi, je travaille, par exemple, dans le médico-social. Quand je bosse mal, mon directeur, il me convoque et il me dit que je fais de la merde. Eh bien, la moindre des choses, c'est justement que le président...
Christo, c'est dommage parce que vraiment, j'aurais aimé prolonger, mais il est déjà 14h23. Et c'est dommage que vous nous ayez eu aussi tard parce que c'était vraiment passionnant d'être avec vous.
Désolé.
Eh ben non, mais appelez-nous, pourquoi pas. Je sais pas si demain, ça sera encore dans l'actu. Mais on peut imaginer se reprendre demain. 14h24, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner le pays à ce stade? C'était le premier débat au 32-10. Anne et Gaylor ont échangé leur point de vue.
On ne peut plus vivre confiné. Je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec ce virus. Il faut qu'on apprenne à respecter, et je répète bien, respecter les gestes barrières.
Moi, je suis pour faire un confinement comme au mois de mars. Ça a quand même donné des résultats.
Et c'est vrai qu'on sentait cette décision venir dans l'émission. Bon, ça, c'est notre discours officiel. Que disiez-vous déjà la semaine dernière, Pascal?
Vous le sentez venir, le confinement?
Ah, bien vu. Vendredi dernier, nous avons fait appel aussi à Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL.
On a failli être confiné, mais vous vous souvenez, hein, l'excellent échange avec Benjamin Sportouche. Benjamin Sportouche, est-ce qu'on sait quand le président va-t-il parler?
Écoutez, on ne sait pas.
Est-ce qu'on sait ce qu'il va dire?
Eh bien, on ne sait pas.
C'est important en même temps de le dire à l'auditeur, ça. De dire on ne sait pas.
Ça créditera ses prochaines interventions encore.
Et puis dans les auditeurs ont la parole aujourd'hui, nouvelle question, êtes-vous séduit par la chanson de Barbara Pravi qui nous représentera l'Eurovision au mois de mai?
Voilà.
Voilà. Allez, c'est voilà, année. Voilà, Benoît représente les fans français de l'Eurovision. Il a répondu à toutes les mauvaises langues.
Ces gens-là ont peut-être pas écouté l'Eurovision depuis des années, mais je crois que c'est comme dirait quelqu'un très haut placé dans le pays. Il y a peut-être 66 millions de procureurs sur l'Eurovision également.
Mmh. Et en tout cas, si quelque chose vous énerve, n'hésitez pas à nous le dire dans l'émission.
J'aime bien vous écouter.
Ah bah vous êtes gentil, Claudine.
Alors,
et puis.
Sauf à la télévision. Hein.
Ah bon?
Parce que là, à la télévision, autant je vous aime, autant je ferme la télé.
Ah
parce
bon
que c'est un cafouillis, tout le monde parle en même temps, tout le monde crie en même temps.
Mais donc, mais là, quand je suis tout seul, vous m'aimez bien.
Voilà.
Et vous êtes jolie, cette chanson, elle vous rentre dans la tête.
Non, mais elle est très bien. La dame, elle préfère m'entendre que me voir, donc c'est.
Mais la question, Pascal, que toute la France se pose. Pascal, dit le Victor Newman de Neuilly-sur-Seine, arrivera-t-il à conquérir Flavie Flamand? Victor Newman de Neuilly-sur-Seine. La semaine dernière, elle lui faisait les yeux doux, mais l'humour cassant de Pascal n'est vraiment pas passé. Où en est leur relation?
Vous n'êtes pas complètement encore, à mes yeux, un prince charmant, parce que
non.
C'est...
Oh, la bonne punchline. Pascal, déboussolé, tente alors une approche avec une autre femme, Christelle Robière.
Barbara Pravi, qu'est-ce que vous en pensez?
Rien.
Merci.
Voilà, fin de conversation. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec les phrases que l'on pouvait dire dans une autre vie, un autre monde. C'était jadis, hein?
Michel Thor, magnifique. Vous savez que l'ami Greg Caranoni a fait chanter Benabar. J'ai écouté vendredi, c'est un génie. Puis il nous l'a amené dans son émission On défait le monde. Il a fait une première couche, mais j'ai écouté pourquoi il dit ça. Et puis deuxième couche, paf, il a été exceptionnel. On pourra le réécouter, ça?
On pourra le réécouter demain, si vous le souhaitez.
Formidable.
Il nous a fait ce cadeau, Benabar.
Flavie Flamand est là ou pas?
Elle est là, elle est avec nous en régie, elle va.
Ah oui, elle veut pas
vous rejoindre.
Elle vous évite, du coup.
Elle m'évite. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur